dans mon intervention, c'est quel est l'impact des interdits sur les relations entre les uns et les autres. L'exemple que je voulais citer aussi, on a un petit problème avec, je pense qu'on a avec tous, nous les musulmans, avec les convertis. Certains convertis, le mois de Ramadan qui va arriver, certains convertis à l'islam souffrent, mais beaucoup, quand il s'agit de célébrer les fêtes de Noël, par exemple, qu'ils veulent passer avec leurs parents. Et quand ils doivent passer les fêtes de Noël avec leurs parents, les fêtes de Noël, c'est bien sûr, on consomme beaucoup d'alcool, on consomme beaucoup de choses qui sont interdites dans l'esprit de l'islam, et beaucoup de jeunes convertis se posent la question, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que j'ai le droit de fêter Noël avec mes parents, est-ce que j'ai le droit de rester sans consommer l'alcool, est-ce que j'ai le droit d'être avec mes parents, etc. Alors la réponse n'est pas toujours la même, bien sûr, ça répond un petit peu à cette question, parce qu'il y a beaucoup d'interdits, sachant que la consommation de l'alcool est interdite, la consommation, enfin, voilà, elle se retrouve dans un milieu où on consomme beaucoup d'alcool, dans un milieu, et ils sont réticents à vouloir aller fêter Noël avec leurs parents. La réponse n'est pas toujours la même, bien sûr, mais moi, ce que je réponds à ces gens-là, c'est qu'au-delà du fait que vous allez vous retrouver dans un milieu dans lequel on consomme l'alcool, c'est les relations avec ses parents qu'il faut garder. Si il faut cela pour garder ses relations avec son papa, avec sa maman, alors il faut absolument y aller. Parce que pour nous, au-delà de la consommation de l'alcool, je ne dis pas qu'elle doit consommer de l'alcool, mais au-delà du fait qu'elle va se retrouver dans un milieu dans lequel on consomme l'alcool, le fait qu'elle garde ses relations avec ses parents, pour nous, c'est quelque chose de très très important. Et verset coranique, il le dit clairement, « وَقَضَ رَبُّكَ » Dieu a décrété que vous n'adorez que lui. L'unicité de Dieu, c'est la pièce maîtresse dans l'islam. Mais tout de suite après l'unicité de Dieu, vient le verset coranique, « Dieu a décrété que vous n'adorez que lui et la bienséance envers les parents. » Les parents, c'est quelque chose de très très important. Qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient pratiquants ou pas, il faut absolument garder ses relations avec ses parents. Et on dépasse outre, dans ce cas, les interdits alimentaires, du moment que ce n'est pas pour autant qu'on va consommer de l'alcool ou quelque chose comme ça, mais garder ses relations avec ses parents, dans ce cas, ça reste très très important. Moi, je le vis tous les jours, je suis enseignant. Tout à l'heure, j'ai parlé des écoles primaires, mais à l'université c'est la même chose. Moi je suis enseignant à la Doua et à midi je vais manger avec les collègues. On se retrouve dans un self-service. Moi je ne prends pas de la viande, je prends du poisson. On sert, c'est un self-service. Donc je prends du fromage, je prends du poisson et les collègues ils prennent de la viande. Et on se retrouve à table, personne ne sait qui est musulman, qui ne l'est pas. Donc il n'y a pas, pour moi les interdits alimentaires ne posent pas véritablement de problème de vivre ensemble, ou de faire ensemble, ou de se retrouver ensemble. Les textes d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, les textes en tout cas, les textes musulmans, ne sont pas très très rigoureux dans ce domaine-là. C'est interdit certes, mais quand il s'agit de garder ses relations avec ses parents, on peut passer outre l'interdiction. Quand il s'agit de vivre ensemble, il y a un certain nombre de choses qu'on peut ne pas respecter au nom du vivre ensemble, justement.
Merci. Christian Bellin, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point?
Je crois que le problème, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait, comment on utilise les interdits alimentaires. On peut les utiliser justement pour marquer une séparation d'avec les autres. Ce qu'Abid Malouf a appelé les identités meurtrières. Quoi, hein. Je construis une identité qui me sépare volontairement des autres et qui exclut les autres. Il peut y avoir une toute autre application, c'est celle qui est d'abord, comme Mazdine vient de le définir, quoi. Je respecte un certain nombre d'interdits, voilà comment j'en rends compte, comment je les explique. Et notamment quand on explique la symbolique d'un certain nombre d'interdits, les autres les regardent tout autrement et ne les méprisent pas à ce moment-là. Et si on devient capable de dire, voilà, moi, par respect pour ce que je crois, par fidélité pour ce que je crois, je ne mange pas ceci, je ne bois pas cela, mais je ne vous interdis pas à vous de le faire. Et puis après, il y a des règles. avec Yasdine, on a en mémoire une histoire commune, des règles aussi de courtoisie. Pense à une rencontre interreligieuse qui a eu lieu il y a quelques années à Lyon, entre musulmans et chrétiens, et le grand débat, ça a été, est-ce qu'on mettra du vin à table ? Et entre chrétiens, on était divisés. Il y a ceux qui disaient, c'est pas interdit, c'est l'identité française, c'est je sais pas trop quoi, il y aura du vin à table. Moi, ma position, c'était de dire, respectons nos convives musulmans, imaginez un imam assis à côté de vous, on lui met une bouteille de vin à table, avec tous ceux et toutes celles qui prennent des photos aujourd'hui, ça circule sur les réseaux sociaux, ça détruit la réputation de l'imam. Donc, par courtoisie, on fait un repas sans vin et on n'en meurt pas. Voilà, je crois que c'est tout ça, c'est l'apprentissage du vivre ensemble, ça rejoint la problématique que vous posiez tout à l'heure. Quoi, hein. Une religion, elle peut donner le pire et le meilleur. On le voit tous les jours dans l'actualité. Le pire et le meilleur. C'est ça le problème. C'est pas la religion en elle-même qui va être mauvaise. Ce sont pas ces interdits en eux-mêmes qui vont être mauvais. Mais c'est qu'est-ce que j'en fais ?
Alors, ça va être à la fois une réponse pour votre question et puis pour la question de monsieur par rapport à son observation de la complexification des règles. J'ai été longtemps enseignante en lycée professionnel avec des élèves à la fois juifs pour une grande part et pas juifs. Et sur la quinzaine d'années d'enseignement que j'ai fait dans cet établissement, où j'ai été enseignante d'histoire juive et d'histoire des religions, vous voyez que c'est un cheval de bataille, l'histoire des religions, que j'ai enfourché depuis longtemps, puisque j'ai eu pour objectif justement de ne pas séparer les élèves dans les mêmes classes au niveau d'un certain nombre d'enseignements qui à l'époque s'étaient appelés valeurs universelles, enfin bon, ça toutes sortes de dénominations. Mais j'ai constaté sur les 15 années que, et ça m'a beaucoup interpellée, l'enseignement que je donnais, comme vient de dire Christian Delorme, de connaissance des religions aux uns et aux autres, ceux qui pratiquaient une religion comme ceux qui n'avaient pas de religion, et qui leur permettait d'ouvrir les yeux de compréhension et de connaissance sur les traditions et les croyances et les pratiques des uns et des autres. Et on est arrivé à faire des voyages scolaires et à partager des repas ensemble de façon très simple, avec une façon de se respecter les uns les autres, puisque j'avais aussi bien, donc on choisissait pour faire simple, mais je retrouve exactement les problématiques que vous avez évoquées par rapport aux cantines de l'école primaire, les cantines scolaires. On demandait dans les lieux où on avait des repas à prendre ensemble, des repas végétariens ou sans viande, on trouvait des tas de solutions. Et puis il y avait néanmoins à l'intérieur de ces groupes des jeunes gens dont ce type de repas n'était pas suffisant. Parce que quand on est dans un milieu très orthodoxe du judaïsme, manger du poisson à une table, même si c'est un poisson autorisé, s'il n'a pas été cuit dans une cuisine cachère et dans des plats cachères, ça ne marche pas. Mais, alors oui, bon, ça complique un petit peu les choses. Et pour autant, à ce moment-là, j'avais effectivement des jeunes gens qui étaient dans cette démarche de croyance et de pratique assez importante. Eh bien, ils se contentaient, enfin, je leur commandais pour eux des plats cachères, sous hypercule, vous voyez, qu'on leur faisait réchauffer et qu'ils mangeaient avec nous, avec tous leurs collègues. Et tout ça fonctionnait très bien, dans une très bonne entente. Et puis, les choses se sont un peu, j'oserais dire, le terme est fort et je l'utilise quand même, un peu radicalisées. Parce que un certain nombre de jeunes gens ont effectivement été de plus en plus accros, je dirais, au respect d'un certain nombre de ces règles. Je retrouve aussi ce que vient de dire notre intervenant imam ici présent. Il a parlé de ses difficultés à parler d'autre chose que d'interdit lorsqu'il intervient sur Radio Salam. Des jeunes gens qui se s'arc-boutent sur un certain nombre de revendications identitaires. Donc je sais pas que je dirais que la question, pas votre question. Et ma réponse recoupe un petit peu la vôtre. Et c'est à la fois ce que j'ai constaté véritablement dans ma pratique de mon enseignement à ce moment-là. Et comme ça correspondait aussi à des recherches universitaires que je menais par ailleurs, j'ai bien constaté que, puisque je faisais un travail donc, de recherche universitaire sur l'évolution des pratiques religieuses à travers l'étude des bulletins communautaires de certaines communautés juives du monde, j'ai bien constaté qu'en 20 ans, enfin, sur une vingtaine d'années, la surenchère et l'inflation des interdits alimentaires. Si quand je regardais les bulletins communautaires dans les années, on va dire, 50-60, enfin 1950-1960, jusqu'au début des années 70, lorsqu'il y a les bulletins qui sont édités au moment de la célébration de la fête de Pessah, donc la Pâque juive, on a toute une partie, une grande partie d'un article qui va expliquer l'explication, enfin le pourquoi symbolique de la fête, l'aspect spirituel du repas de la Pâque, etc. Et puis ce qu'il est interdit de consommer pour la fête est réduit à sa portion congrue. Ben, on ne mange pas de pain, on consomme du pain azim, on boit du vin cachère, enfin, ben vraiment, peu, quoi. Et au fur et à mesure que les années passent, vous voyez la liste qui s'allonge, ce qu'il convient de faire, le nettoyage, tout ce que faisaient auparavant les personnes, mais qui s'est codifié et qui s'est élargi d'une façon exponentielle. Et je l'ai constaté, en regardant, enfin, encore une fois, l'étude des bulletins, au détriment du fondement même du sens de la fête. Alors, je vais évoquer, je sais pas, c'est pas un parti pris particulier, hein, c'est une observation, puisque là, il s'agit de communautés orthodoxes ou traditionnelles. Je vais pas dire la même chose sur les communautés libérales, qui fonctionnent différemment, mais c'est vrai qu'on se retrouve, je pense, aujourd'hui, avec une complexification, pas très joli, mais extrêmement importante. Et comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas que le fait du judaïsme. Je discutais avec un collègue qui travaillait sur le même type de problématique dans l'islam, qui me dit on trouve de l'eau halal. Il y a du dentifrice cachère, je veux dire, mais parce qu'on est aussi dans une société où la nourriture s'est beaucoup industrialisée, tout a quand même une raison quelque part, hein, et qu'à l'intérieur de ces aliments, autrefois, qu'est-ce qu'on mangeait? Quand on mangeait une pomme, on mangeait qu'une pomme, quand on parle de pomme, je ne sais pas, un exemple un peu bécasson, mais la façon qu'on consommait les aliments était beaucoup plus simple, la traçabilité, comme on dit aujourd'hui, était plus nette. Aujourd'hui, on mange beaucoup d'aliments transformés, à l'intérieur duquel on va trouver des gélatines dans lesquelles il y a du porc, dans les bonbons, par exemple. Donc, pour ceux qui vont être extrêmement observants, ou qui veulent l'être, effectivement, c'est pour ça qu'ils passent tout au crible de ce qui va être permis ou interdit. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne raison, nécessairement. Enfin, mon rôle n'est pas d'apporter un jugement de valeur. Mais d'expliciter aussi un petit peu ces raisons-là. Mais ce qui est dommage, effectivement, je trouve, alors pour le coup, c'est un pas jugement d'alors je vais, c'est que l'orthopraxie prend énormément le pas sur la connaissance des textes et même la réelle. Enfin, moi, je parle par rapport au judaïsme que je connais évidemment mieux. Quand j'interrogeais les jeunes gens que j'avais à l'époque en classe, peu connaissaient la réalité des règles alimentaires et leur sens. Ils n'en connaissaient que ce qu'ils pensaient devoir ou ne pas devoir faire. Ceci ne serait pas très important et grave si ça ne portait pas un jugement de valeur sur ceux qui ne font pas la même chose. Ça, c'est tout l'objet du débat.
Il y a une question qui peut être répondue. Le pur et l'impur. Pas eu de réponse. Ah ben non.
Je veux répondre sur la notion du pur et l'impur. Oui, sur la notion de pur et l'impur.
Je pourrais relire le passage de Marc que j'ai lu tout à l'heure. Hein, sur ce qui est impur, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Voilà, c'est ça, c'est fondamental dans le christianisme. Après, il va y avoir des notions de pureté et d'impureté, mais alors elles sont liées à la dimension culturelle, aux réalités culturelles. Par exemple, il y a une distinction qui a été observée dans la plupart des sociétés chrétiennes, mais aussi occidentales, c'est la distinction entre les animaux qu'on pouvait considérer comme appartenant au monde des enfers, au monde souterrain. Donc on ne mangeait pas ces animaux-là, hein, le serpent, les insectes. Et le porc, d'ailleurs, était souvent associé à ces animaux infernaux, puisque, et longtemps dans le christianisme, puisque je vais prendre longtemps, il y a eu l'interdiction du porc aussi dans certaines églises, parce qu'il avait le groin toujours vers la terre, il gratte toujours à la terre. Voilà. Donc il y a eu ce type d'idée qui est liée à l'impureté de certains animaux, du fait de leur situation dans l'univers. En même temps, aujourd'hui, c'est en train de voler en éclats. Parce que, par exemple, le serpent, en Chine, c'est un animal qui est vu, au contraire, comme presque le roi des animaux. Voilà. Et puis, alors, il y a d'autres dimensions sur le pur et l'impur qui ont jamais été très claires dans le christianisme.
Et la femme et les règles, par exemple.
C'est à cela que j'avais référence, tout à fait. Vous avez, nulle part dans les écritures premières, mais dans les textes de l'Église, vous avez des périodes où, en effet, les femmes sont déclarées impures à cause de leur menstrue. Et on en retrouve une trace jusqu'à aujourd'hui, qui est même inconsciente. Quand vous avez certains jeunes prêtres qui sont plus identitaires que les vieillards comme moi, et qui continuent, ou même qu'il y a un retour en arrière, qui ne veulent pas que des femmes aillent à l'autel, par exemple. Et quand on leur demande pourquoi, ils sont incapables de le dire. Mais c'est parce qu'il y a l'idée ancienne d'une impureté de la femme liée au sang des menstrues. Voilà. Mais ça, c'est pas dans les textes premiers du christianisme, et c'est dans aucun texte contemporain du christianisme, en tout cas du catholicisme.
C'est ce qu'on retrouve dans le judaïsme aussi. Le judaïsme, dans la notion d'impur, considère effectivement comme impur toute perte de substance, et en particulier le sang, bien entendu, les substances génitales, le contact avec le cadavre.
Sympa. C'est sympa pour les femmes.
Le contact avec et toutes les maladies qu'ils appellent dans la Bible, qui est appelée dans la Bible, la lèpre. En fait, c'est toutes les maladies de peau. Hein. Et donc, cette notion de pureté, c'est parce que, dans la Bible, les anthropologues, comme ils se penchent sur ces textes-là, considèrent que c'est une mise en cause de l'ordre du monde tel qu'il a été créé par Dieu. Dieu a créé le monde parfait. Chaque personne, chaque animal a sa place. Il y a une anthropologue qui s'appelle Mary Douglas qui a écrit un livre qui s'appelle « De la souillure » et qui a examiné toutes les bêtes qui étaient interdites dans le judaïsme. Elle a considéré, c'est dans sa grande majorité, on a démontré qu'elle avait raison, que les bêtes qui avaient été exclues, ce sont les bêtes qu'on ne pouvait pas classer qu'on ne pouvait pas mettre dans une classe très nette. Le monde des hommes a horreur de ce qui est indécis.
Les hommes au masculin.
Horreur de l'homosexualité.
Mais c'est les hommes au masculin dont vous parlez là.
Les hommes et les femmes.
Non, mais les hommes, c'est les hommes qui décident là. Non,
oui, ce qui est très intéressant, c'est
les hommes qui font ça.
Dans la Bible, on va le dire très nettement, elle a été écrite par des hommes.
Ben voilà.
La Bible, on le sait aujourd'hui, elle a été principalement rédigée au retour de Babylonie, c'est-à-dire entre le 5e et le 6e siècle, entre le 6e et le 5e siècle de notre ère. Elle a été rédigée par des scribes, elle a été rédigée par des prêtres. C'est pour ça qu'on trouve deux fois dans la Bible les prescriptions alimentaires. Une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, dans Lévitique 11, chapitre 11, et une fois dans Deutéronome 14. Et vous verrez que les animaux qui apparaissent dans le Lévitique 11 ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui apparaissent dans le Deutéronome 14. Et pourtant, on les a laissés. Pourquoi ? Parce que la Bible est un document de consensus entre des perceptions différentes qui étaient celles des prêtres et qui étaient celles des scribes. Et le prêtre avait une notion de pur et d'impur qui était différente de celle du scribe. Et c'est pour ça qu'on trouve ces différences. Donc la notion de pur et d'impur
fait remonter à des notions anthropologiques qui nécessitent un travail de recherche qui va bien au-delà d'une simple approche, je dirais, croyante, entre guillemets, de ces textes. Ces textes ont été rédigés par des hommes dans des conditions historiques bien définies, et elles nécessitent d'être traitées, ces textes, ils nécessitent d'être traités comme des textes profanes, en montrant qui a écrit, pourquoi on a écrit, quelles sont les intentions de ceux qui ont écrit, quels étaient leurs buts. Que voulait-on faire aux croyants? Et quand on prend cette démarche-là, à ce moment-là, effectivement, on a un regard différent, mais toujours respectueux par rapport aux prescriptions alimentaires telles qu'elles sont limitées et telles qu'elles ont été modifiées. Parce que le Talmud, pour en revenir aux Juifs, les rédacteurs du Talmud, les rabbins Tanaïm, ont, et on l'a dit tout à l'heure, ont proliféré de nouvelles prescriptions en durcissant ce qui avait été dit, c'est-à-dire qu'ils ont codifié la loi en faisant en sorte qu'il y ait des barrières entre les Juifs et le reste, de façon à préserver la pérennité du peuple juif. Donc il y avait une idéologie qui était derrière tout ça, et non pas uniquement des sentiments religieux. Alors, ça c'est très intéressant. Mais peut-être que c'est un débat qui ne devrait pas être tenu ce soir. Et peut-être qu'il y a d'autres questions. Si on peut terminer là-dessus, mais on va peut-être laisser d'autres questions se poser.
Pas une question, c'est simplement un témoignage assez drôle, enfin, qui me fait rire maintenant, mais qui ne m'avait pas du tout fait rire à l'époque. En 90, j'ai débarqué comme institutrice dans une école primaire à Villeurbanne, cours Émile Zola, école Émile Zola, métro République. Je remplace un jour une collègue à la cantine. Les enfants sont en rang. Il rentre dans la cantine et la cantinière, je vous assure que je cite, « Les Juifs et les Arabes, vous vous mettez là !» J'étais sidérée. Alors, je lui dévérais, je lui dis « Non, enfin, madame, c'est comme ça qu'on fait. » Ah bon. Et après, je le dis à mes collègues, je leur dis combien j'étais choquée. « Ah ben, on a toujours fait comme ça. » 90. Donc, il était temps que la municipalité de Lyon s'occupe des problèmes de cantine. Donc c'est pour revenir à l'exclusion. C'est quand même très très excluant. Enfin, ça avait au moins l'avantage de rapprocher les petits gamins juifs et arabes. Voilà.
Oui, bonsoir. En fait,